Voici la question du jour. Avons-nous quelque chose à faire pour gagner notre ciel, pour avoir la vie éternelle? La parole de Dieu nous donnera une réponse claire à cette question, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ». Bonjour, ici Caro. Il y a des gens qui disent que telle ou telle personne mérite d'aller au ciel. Vous avez peut-être entendu ça déjà. Qu'elle a suffisamment souffert ou fait de bonnes œuvres pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous vous posez des questions à ce sujet? Comme par exemple, devons-nous travailler pour gagner notre ciel? Que signifie être sauvé par grâce? Quel rapport y a-t-il entre Abraham qui avait la foi en Dieu et le croyant d'aujourd'hui qui a la foi en Jésus-Christ? Avons-nous simplement à croire en Dieu et au sacrifice de son Fils pour avoir l'assurance de la vie éternelle? Devons-nous offrir quelque chose à Dieu en échange pour la vie éternelle qu'il nous donne? Est-ce que c'est possible qu'un chrétien marche selon le monde parce qu'il manque de foi? Est-ce qu'une coutume est acceptée par Dieu simplement parce qu'elle est acceptée par la société? Est-ce que Dieu approuve une coutume simplement parce qu'elle est racontée dans la Bible? Dans la leçon d'aujourd'hui, on va avoir des réponses encourageantes à toutes ces questions, alors que le pasteur Jean Joly va nous enseigner la parole de Dieu. Alors, demandons à Dieu qui nous dispose afin que ses réponses soient très claires pour nous. Prions. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de sujets à toucher aujourd'hui. Beaucoup d'endroits où tu veux nous enseigner ta parole. Alors dispose nos cœurs, aide-nous à bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous débutons notre émission au verset 6 du 15e chapitre du livre de la Genèse. Genèse 15, verset 6. Nous lisons. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Nous avons ici un des grands chapitres de la Bible et l'un des grands versets du livre de Dieu. Rappelez-vous de l'apparition que Dieu fit à Abraham alors qu'il revenait de sa victoire contre les rois de l'Est. Dieu l'avait protégé, il avait dit à Abraham qu'il était son bouclier et que sa récompense serait grande. Abraham s'est inquiété du fait qu'il n'avait pas eu de fils. Il a suggéré qu'Éliézer soit son héritier. Dieu a amené Abraham à l'extérieur alors qu'il faisait nuit. Il a dit à Abraham de regarder les étoiles et lui a dit s'il pouvait les compter, il connaîtrait le nombre de sa postérité. Il ne pouvait compter les étoiles. Il devait en voir environ 4000. Il est possible que dans cette région, il y peut en voir jusqu'à 50 000. Il ne pouvait compter les étoiles, ni le nombre de sa postérité. Maintenant, Abraham crut Dieu. Cela signifie qu'Abraham a répondu « Amen » à la promesse de Dieu. Dieu s'est engagé envers Abraham, et Abraham a dit à Dieu qu'il le croyait. Et cela lui fut imputé à justice. Ceci est très important. Nous devons nous y arrêter un peu plus. Paul a cité cet incident dans le 4e chapitre de l'Épître aux Romains. Lisons à partir du verset 1er. Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Sa foi n'était pas une justice, mais Dieu l'a comptée comme une. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Maintenant, si vous pouvez travailler pour gagner votre salut, alors Dieu vous le doit. Cependant, mes amis, Dieu a toujours dit que le salut s'obtenait uniquement par grâce. Il n'y a jamais eu d'autre moyen de salut. Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons cru Dieu. Nous acceptons Christ comme sauveur. Nous croyons que c'est le salut que Dieu a pourvu pour nous. C'est très clair. au verset 5, toujours de cette même lettre de Paul, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Quelle sorte de personne est-ce que Dieu justifie? Il justifie des impies. La foi est comptée pour une justice. Elle est comptée pour ce qu'elle n'est pas. Abraham a cru Dieu. Il lui a fait confiance. C'est en croyant Dieu que nous sommes sauvés. C'est en croyant que Dieu nous a pourvu un salut en Jésus-Christ. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Dieu va vous déclarer juste simplement si vous placez votre confiance en Jésus-Christ seul. Cette grande vérité nous est aussi présentée dans le troisième chapitre de l'Épître aux Galates. Nous lisons au verset 6. « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La foi d'Abraham le rendit fidèle à Dieu, mais il ne fut pas sauvé par sa fidélité. Il fut sauvé parce qu'il a cru Dieu. La fidélité est une marque de sa foi. Nous devons comprendre cela. Abraham était un homme pratique. Il n'affichait pas une piété hypocrite comme nous en voyons beaucoup aujourd'hui. Abraham est un homme très pratique. Il veut savoir quelque chose et il aimerait que l'information soit consignée dans un contrat. Lisons le verset 7 de Genèse 15. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Dieu affirme encore à Abraham qu'il lui donne le pays en héritage, mais Abraham n'a même pas un titre de propriété. Il n'a même pas un seul document prouvant son droit de propriété. Nous voyons ici, chers amis, le côté pratique d'Abraham. Il s'occupe de la réalité, du quotidien de la vie, et tous les croyants devraient faire cela. Il nous faut un côté réel à notre vie chrétienne. Si nous n'en avons pas dans notre vie, nous n'avons pas vraiment de vie spirituelle. Dieu nous appelle à aimer notre prochain pour toucher des cœurs, et ce service se fait sur terre avec des besoins réels dont il faut s'occuper. Ce n'est pas quelque chose de vague et nébuleux. De nombreuses personnes font simplement jouer à fréquenter l'Église. Abraham est pratique. Il veut savoir une chose, il désire une garantie. Quelle sera la réaction de Dieu? Il va probablement lui dire, « Je suis heureux que tu demandes une garantie. Je vais te rencontrer devant un notaire au palais de justice et nous signerons un contrat. Tu auras un fils, rencontrons-nous au palais et je signerai les documents légaux. » Maintenant, votre première réaction est peut-être de dire que j'exagère. Cependant, j'ai exprimé dans un langage contemporain ce qui se produit dans les versets suivants. Faisons la lecture des versets 8 à 10 de Genèse 15. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Dieu a demandé à Abraham de préparer un sacrifice. Il devait prendre une génisse, une chèvre et un bélier et les couper en deux, une moitié de chaque animal de chaque côté. Cependant, il n'a pas coupé la tourterelle et la colombe, mais il a placé un oiseau de chaque côté. C'est ainsi que se faisait un contrat entre deux personnes dans la culture hittite. Si un homme s'engageait à acheter des moutons d'un éleveur, il préparait un sacrifice de ce type. Les deux parties se tenaient par la main ils énonçaient les clauses du contrat, ils marchaient entre les animaux sacrifiés. À cette époque, cela correspondait à passer devant un notaire pour signer un contrat. Les deux parties étaient liées et quiconque brisait l'entente était puni. Dieu s'adresse à Abraham dans le langage de sa culture, un langage qu'il comprend bien et qu'il a probablement utilisé souvent. Si cela nous paraît étrange, ce ne l'était pas au temps d'Abraham. Poursuivons notre lecture, verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Cette scène, très humaine, n'avait rien d'inhabituel pour les gens qui ont pu en être témoins. Dans Jérémie, chapitre 34, verset 18, nous lisons « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Nous voyons que cette coutume était répandue non seulement chez un peuple, mais chez plusieurs peuples, et elle fut maintenue longtemps. Cette méthode consistait à conclure un contrat en passant entre les morceaux d'animaux sacrifiés. Abraham a donc tout préparé conformément aux instructions de Dieu. Les oiseaux de proie furent attirés par les cadavres et ils s'abattirent sur ceux-ci. Abraham intervint afin qu'ils ne mangent pas le sacrifice. Si vous aviez été là, connaissant la coutume de l'époque, vous auriez peut-être dit « Bien, mon frère Abraham, il semble que le parti avec lequel tu veux faire une entente ne s'est pas présenté. » Abraham aurait alors répondu « Non. Je ne pense pas qu'il soit en retard. Il m'a dit simplement de tout préparer, car il viendra pour conclure l'entente. » Voici ce qui arriva par la suite, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. C'est ce qui est arrivé. Abraham est paralysé par le sommeil et mis de côté. Cela semble une chose étrange à faire, alors qu'Abraham devrait être partie prenante du contrat. Mais nous avons ici un contrat très inhabituel. Dieu passe entre les morceaux du sacrifice, car il fait une promesse à Abraham. Par contre, dans ce contrat, Abraham ne promet absolument rien. Abraham ne fait que croire Dieu. C'est tout, pas plus. Il croit Dieu. C'est aussi ce qui s'est produit il y a 2000 ans, lorsque Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le Fils a accepté de venir sur terre et de mourir pour les péchés du monde, vos péchés et les miens, afin que quiconque croit en lui accepte simplement son cadeau, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Citation de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Oh, je n'étais pas présent il y a 2000 ans pour signer un contrat, mais Dieu le Père et Dieu le Fils y étaient. Le Fils fut crucifié pour mes péchés. J'étais paralysé par le péché. Je ne pouvais rien promettre à Dieu, ni vous d'ailleurs. Ni Abraham n'a promis quoi que ce soit. Si Dieu avait dit à Abraham, « Abraham, si tu promets de prier chaque soir, je vais faire cela pour toi. » Que serait-il arrivé si Abraham n'avait pas prié quelques soirs? Le contrat aurait été brisé. Dieu ne serait plus tenu de remplir sa part, puisque la condition imposée à Abraham n'aurait pas été respectée. Mais Dieu s'est engagé à respecter sa part du contrat, et tout ce qu'il nous demande, c'est de le croire et de dire « Ainsi soit-il, Amen » à sa promesse. Vous devez croire Dieu et au sacrifice de son Fils. Mes amis, notre salut, c'est faire confiance à Dieu. Un jour, le fils d'une mère chrétienne revint du collège où il étudiait. Celui-ci en revint athée. Elle expliqua à son fils combien Dieu était grand et bon et qu'elle avait l'assurance de son salut. Le jeune homme était sceptique. Il était agacé par ses paroles. Finalement, il dit, « Comment peux-tu savoir que tu es sauvé? Ton âme ne compte pas pour grand-chose. » Il la compara à l'étendue de l'univers et lui dit que Dieu pouvait facilement l'oublier et qu'elle ne pouvait pas être certaine de son salut. Elle ne répondit pas immédiatement, mais elle finit de servir le déjeuner à son fils, s'assit pour manger. Lorsqu'elle eut terminé, elle dit à son fils, « Tu sais, mon fils, j'ai réfléchi à tes paroles. Peut-être as-tu raison. Mon âme compte peut-être pour peu de choses. Peut-être que Dieu ne remarquerait pas mon absence dans son vaste univers. Mais, s'il ne me sauve pas, il perdra beaucoup plus que je perdrai. Je perdrai seulement mon âme insignifiante, mais il perdrait sa réputation parce qu'il a promis de me sauver. C'est ce qu'il a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est celui qui a passé entre les animaux partagés. C'est lui qui fait la promesse. » Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Dans les Écritures, il est prédit que le peuple de Dieu sera forcé de quitter la terre promise à 3 reprises. Celle-ci est la première fois. Les prédictions affirment aussi que le peuple reviendra dans le pays, et ce fut le cas après le séjour en Égypte. Ensuite, quelques siècles plus tard, il y eut la captivité à Babylone. Le peuple de Dieu est revenu de celle-ci après 70 ans. Finalement, en 70, après Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite, Israël fut dispersé une 3e fois. Israël ne fut jamais rétabli depuis. Leur présence dans la Palestine d'aujourd'hui n'est absolument pas un accomplissement des Écritures, mais, selon la Bible, le peuple de Dieu reviendra en Palestine exactement tel que prédit. Versets 14 et 15. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Les Hébreux ont sorti d'Égypte avec de grandes richesses, mais Abraham n'a pas vécu pour voir tout cela. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En fait, Dieu dit à Abraham, « Je ne peux pas te donner le pays maintenant, parce que j'aime aussi les Amoréens, et je veux leur donner une occasion de venir à moi, de se repentir. » Dieu accorda 400 ans aux Amoréens, ce qui est très long, n'est-ce pas? Ils ont eu l'occasion de se repentir. Malheureusement, une seule personne s'est convertie. Rahab, une femme prostituée. Elle est venue à Dieu. Elle a cru Dieu. C'est tout ce que Dieu vous demande, de lui faire confiance. Dieu a laissé beaucoup de temps aux Amoréens afin qu'ils se repentent et viennent à lui. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ces deux manifestations parlent de Christ. La fournaise rappelle le jugement, et les flammes rappellent la lumière du monde. Les versets 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananiens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » Dieu indique les limites du pays qu'il promet à Abraham. Et qu'a dû promettre Abraham en échange? Absolument rien. Il a cru Dieu. Et Dieu vous sauvera. Il vous donnera la vie éternelle, un cadeau fait par grâce, si vous croyez qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à votre place. Maintenant, nous arrivons au chapitre 16 du livre de la Genèse. c'est un autre chapitre qui relate un malheureux incident dont nous aurions préféré ne pas entendre parler. Après l'expérience spirituelle qu'il vient de vivre avec Dieu, nous penserions qu'Abraham aurait maintenu un haut niveau de spiritualité. Comme nous tous, malheureusement, il n'est pas parfait. Nous allons voir qu'Abraham peut encore manquer de foi en ce qui touche Sarai, une servante égyptienne. Vous êtes prêts? Chapitre 16, verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Abraham a ramené deux choses d'Égypte qui lui ont attiré des ennuis, des richesses et une servante égyptienne. Verset 2. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. La suggestion de Sarai était une coutume répandue dans la culture du pays. Si l'épouse était stérile ou ne pouvait pas donner naissance à un enfant, le mari se tournait vers une concubine. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu approuvait une telle action. En fait, Dieu désapprouvait entièrement cette façon de faire. Ce fut l'idée de Sarai, mais elle était conforme aux coutumes de l'époque. Abraham l'écouta plutôt qu'exercer le leadership dont il aurait dû faire preuve. Il accepta sa recommandation. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. La petite servante égyptienne devient une concubine, et ce n'est certainement pas la volonté de Dieu. Dieu n'acceptera pas l'enfant qui naîtra d'Agar. Pourquoi? Parce que cela était mal. Ceci est rapporté dans la Bible, parce que c'est un fait historique, pas parce que Dieu l'approuve. Verset 4. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Imaginez-la, en train de penser, « J'ai donné un fils à Abraham. Sarai n'a pas été capable de le faire. » Elle regardait Sarai de haut. Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Sarai se plaint qu'Agar l'outrage. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur, qu'elle a mal agi. Dieu n'acceptera pas l'enfant comme héritier d'Abraham, et cela lui brisera le cœur. Malheureusement, ils ne font pas confiance à Dieu comme ils le devraient. Abraham a environ 90 ans, et Sarai en a 80. Ils sont probablement arrivés à la conclusion qu'ils n'auront pas d'enfant. Sarai a peut-être pensé que Dieu voulait qu'il fasse cela, car c'était la coutume de l'époque. Même si la coutume est acceptée par la société, elle n'est pas conforme aux voies de Dieu. Nous risquons de nous tromper si nous pensons que Dieu approuve une chose parce qu'elle est racontée dans la Bible. L'inspiration nous garantit la véracité du récit, mais la Bible nous raconte beaucoup d'incidents que Dieu n'a pas approuvés. Nous sommes justement devant un de ces cas. Il faudra attendre la prochaine émission pour terminer ce récit. Préparons-nous en lisant Genèse chapitre 16, verset 6, jusqu'à Genèse chapitre 17, verset 7.
Merci, Régent. C'est tellement simple. Abraham a pris Dieu au mot. Il a cru en ce qu'il disait. Et toutes les nations ont été bénies en lui. Il a été fidèle. Mais c'est pas à cause de sa fidélité que les nations étaient bénies en lui, mais parce qu'il a cru en la parole de Dieu. C'est ce que Régent vient de nous enseigner aujourd'hui. Puis on a vu aussi que quiconque croit en Jésus ne périt pas, mais qu'il a la vie éternelle. Est-ce que tu crois ça? Simplement parce que Dieu l'a dit? Le 6 août 1977, j'ai pris Dieu au mot. J'ai compris que Jésus, Dieu fait homme, est venu sur la terre dans un corps d'humiliation comme le mien, il y a 2000 ans. Imagine, le Fils de Dieu qui a quitté la présence de son Père, qui a quitté son royaume pour venir sur cette terre, puis habiter parmi nous, nous qui sommes des pécheurs. Il est le seul qui soit venu ici sans péché. Ensuite, comme si lui-même était un grand pécheur, il a subi la condamnation que je méritais dans le but de payer ma dette, pour m'épargner l'enfer, les flammes éternelles, loin de la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que j'ai compris il y a longtemps. J'ai pris Dieu au mot. J'ai reconnu que ma dette était payée et que j'avais simplement à me repentir, c'est-à-dire me détourner de ma vie de péché. Reconnaissant que par moi-même, je ne pouvais pas le faire, ni avoir accès à la vie éternelle. J'ai demandé à Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle. Je l'ai reçu comme sauveur personnel, comme Seigneur, c'est-à-dire comme maître de ma vie. Puis au moment où j'ai ouvert la porte de mon cœur, où je l'ai invité à entrer, j'ai reçu le cadeau de la vie éternelle. Son Esprit Saint est entré en moi. Je suis née de nouveau. Je suis devenue une enfant de Dieu. Avec l'assurance que le jour où je vais mourir, j'irai tout droit au ciel. Pas par mes mérites, mais par la foi en Dieu, qui accomplit toujours ce qu'il promet. Comme il l'a fait pour Abraham, le père de la foi. Et toi, est-ce que tu prends Dieu au mot? Crois-tu que c'est à toi qu'il s'adresse dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais laisse-moi répéter ce verset et mettons ton nom à la place des mots « monde » et « quiconque ». Par exemple, car Dieu a tant aimé Jacques, Louise, Stéphane, Nathalie, qui a donné son Fils unique, afin que Jacques, Louise, Stéphane, Nathalie, en croyant en lui, ne périsse pas, mais qu'il ou elle ait la vie éternelle. Veux-tu avoir la vie éternelle? Dieu veut te la donner aujourd'hui, en toute simplicité. Entends-tu sa voix qui parle à ton cœur? Qui te dit, je veux que tu sois mon enfant. Je veux prendre soin de toi, non seulement maintenant, mais pour l'éternité.
Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée « L'heure de la bonne nouvelle ». Qui est diffusé sur tout le réseau de télévision TQS, tous les dimanches matins, dès 8h. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée, votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8h, sur tout le réseau TQS.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.